Voilà, donc ce soir, nous allons poursuivre notre étude de la première épître de Paul aux Corinthiens et nous sommes rendus au chapitre 8. Donc, comme vous allez voir dans les trois prochaines séances, les trois prochains chapitres que nous allons étudier abordent la question sensible de la liberté chrétienne, c'est-à-dire comment en user, comment se servir de cette liberté pour que l'œuvre de Dieu avance et n'en soit pas affectée négativement. Aujourd'hui, la question qui va être abordée dans le chapitre 8, c'est la question de consommation d'aliments sacrifiés aux idoles. Pour nous, c'est évident, quand on en parle aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, c'est une question qui paraît un peu étrange, justement, alors que pour l'époque où ça a été écrit, à l'époque de Paul, donc le problème se posait avec acuité, justement, et c'est un problème qui divisait les gens dans l'Église. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que de tout temps, il y a eu des pratiques qui ont fait l'objet de débats interminables sur certaines questions que l'on peut considérer comme sensibles par certains, alors que dans l'Église, d'autres personnes considèrent que parce que telle ou telle chose n'est pas interdite par la Bible de manière claire, de manière absolue, nette et précise, comme on dirait du vol, comme on dirait de l'adultère, que ce n'est pas grave que l'on se fasse. Alors, il y a quelques exemples que je vais juste donner. Tout ce qui touche à la musique du monde, certains jeux de société, les formes de coiffure, les maquillages, les aspects qui touchent à l'incinération, particulièrement dans le monde occidental. Donc, c'est des questions sensibles sur lesquelles les gens n'arrivent pas toujours à se mettre d'accord. Et Paul, donc, dans ce chapitre 8, vient à donner son point de vue sur la question des viandes sacrifiées aux idoles. Et il va le faire en trois points. N'oublions pas que la première épître de Paul est essentiellement une réponse aux questions que les gens posaient par rapport à ce qu'ils vivaient dans leur communauté. Donc, le chapitre 8 va être divisé en trois parties. Les trois premiers versets, où Paul montre que, ben oui, nous sommes dans un milieu où les gens disent que nous avons tous une certaine connaissance. Les deux prochains suivants, les deux versets suivants, 4, 5 et 6, nous savons donc qu'une idole n'est pas Dieu. Donc, il va prouver cela, il va l'en parler. Et les derniers versets de 7 à 13 vont parler donc sur le fait que nous n'avons pas. C'est vrai que nous avons tous la connaissance, mais nous n'avons pas tous la même connaissance. Et ça peut faire une différence dans la manière d'interpréter les choses. Un petit mot pour entrer dans le contexte, un petit mot pour parler de ces viandes sacrifiées aux idoles. Je rappelle que nous avons vu dès le début que la ville de Corinthe, c'est une communauté qui était multiculturelle, les gens venant de différents horizons. Et donc, automatiquement, il y avait de nombreuses divinités qui étaient vénérées à Corinthe. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les viandes qui étaient offertes l'été étaient offertes aux prêtres dans différents temples gréco-romains qui existaient, qui étaient essentiellement des temples païens. Donc, c'est là-dedans qu'on offrait ces viandes qui étaient sacrifiées aux idoles et dont le surplus était mis en vente sur le marché et une partie de ce qui était mis en vente après avoir été sacrifié aux idoles, donc aux faux dieux. Nous allons y revenir plus en détail dans la suite de ce chapitre. Le but poursuivi, lorsqu'on offrait ces viandes en sacrifice aux idoles, c'était, ben, pour que ce soit purifié des mauvais esprits qui pouvaient donc attraper le corps humain. L'autre but, c'était pour avoir forcément la faveur des dieux à qui c'était offert. Donc, une façon d'acheter la faveur de Dieu. Dernier point, justement, concernant ces viandes sacrifiées aux idoles, c'est que, en plus du fait que ces viandes étaient vendues sur le marché, ces viandes étaient servies aussi dans différentes fêtes qui étaient organisées. Lorsqu'il y avait certaines activités sociales comme les mariages, etc. Donc, c'était des viandes qui étaient servies à ce moment-là. D'où la question que les chrétiens de Corinthe se posaient et ont posée à Paul. Est-ce que les croyants peuvent manger de ces viandes? Sachant bien que c'est des viandes qui, la plupart des cas, des fois, ont été sacrifiées aux idoles. Et au verset premier, donc, Paul aborde la question en disant, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Je vais lire les trois premiers versets. Nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, alors celui-là est connu de lui. Donc on voit que au verset premier, Paul est un peu d'accord avec les différents défenseurs de la liberté qui prétendent, qui ont la prétention d'avoir la connaissance. Et n'oublions pas que nous sommes dans une société qui était aussi marquée par une culture grecque, qui était la culture de la connaissance, de l'excellence. Et donc, ils prétendent avoir la connaissance. Donc, ils sont convaincus, l'idée développée, donc, et qu'ils sont convaincus, et Paul est convaincu, que la consommation de ces viandes ne pouvait nullement affecter leur vie de croyant. Paul est un peu d'accord avec ça, au verset premier. Nous le savons, que nous avons tous la connaissance. Et donc, il a cette conviction. Il rappelle aussi que c'est vrai que la connaissance est bonne, etc., mais il confirme que cette connaissance, si on y prend garde, la connaissance peut enorgueillir, peut enfler quelqu'un. Et cette connaissance, si on la prend de manière tout à fait brute, elle ne tient compte que de la personne qui a la connaissance, mais elle ne tient pas compte de son entourage. Elle ne tient pas compte des gens qui sont autour d'elle, dans la famille et dans l'église. Alors, il y a un risque de s'enorgueillir à cause de cette connaissance. Paul confirme aussi que l'amour édifie. Ça, on le voit donc à la fin du verset premier. L'amour édifie, car pour édifier, l'amour s'impose automatiquement des restrictions. Et l'amour ne fera rien qui puisse nuire aux autres. L'amour tient compte des autres, alors que la connaissance tient compte juste de la personne qui la détient. Alors, il confirme donc l'amour édifie, il s'impose des restrictions. Et donc, il continue en disant que si la connaissance est importante, c'est vrai, on ne peut pas l'ignorer, notre comportement, lui, ne doit pas seulement être dicté par cette connaissance. Parce que si on tient compte juste de la connaissance, ça va être au détriment de la compréhension, ça va être au détriment de l'amour de ceux qui n'ont pas encore atteint le même niveau de connaissance. Verset 2, si quelqu'un croit savoir, c'est-à-dire si quelqu'un se fie à sa seule sagesse, mais lui n'a qu'une connaissance limitée. Donc, il a une connaissance qui n'est pas suffisante. Mais il dit que connaître, comme il faut connaître, c'est donc un niveau supérieur, c'est une coche de plus. C'est de comprendre les choses en tenant compte de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la liberté de le servir au moyen de cette connaissance et pour qu'au moyen de cette connaissance, nous puissions servir son peuple. Donc, connaître comme il faut connaître, c'est comprendre la volonté de Dieu qui nous donne la liberté pour le servir et qui nous permet donc de servir également son peuple. Et au verset 3, il dit, « Mais si quelqu'un aime Dieu, Paul rentre tout de suite dans une démarche, une autre démarche en mettant l'accent sur l'amour et pas sur la connaissance uniquement. Donc, ce qui doit nous diriger, d'après Paul, dans nos choix, c'est beaucoup plus l'amour pour Dieu. Et quand nous avons cet amour pour Dieu, Dieu nous connaît et Dieu automatiquement se fait connaître à nous. Voilà donc ce que Paul veut dire dans les trois premiers versets. Et donc, là où la connaissance nous permet de jouir de certaines libertés, des libertés qui ne sont pas forcément contraires à la volonté de Dieu, hein, l'amour, quant à lui, va nous amener parfois à limiter notre liberté pour le bien de nos frères et de nos sœurs qui n'ont pas encore atteint notre niveau de connaissance. C'est vrai, il faut que cette connaissance nous permette de jouir de certaines libertés, mais nous devons avoir l'amour qui accompagne cela pour que nous puissions limiter notre liberté en fonction de ceux qui nous entourent. Et nous allons certainement en parler beaucoup plus loin. Et n'oublions pas que le plus grand commandement dont la Bible nous parle, dont Jésus nous parle lui-même dans Matthieu chapitre 22, je vais le lire rapidement, Matthieu chapitre 22, le verset 37 et 38, nous dit ceci. Jésus répondit, il parlait aux pharisiens, « Tu aimeras le Seigneur » quand il lui a été posé la question pour l'éprouver, quel est le plus grand commandement, mais quel est le plus grand commandement de la loi ? Verset 36, Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est le premier et le plus grand commandement. Et il ne s'arrête pas là, il ajoute au verset 39, « Et voici le second qui lui est semblable, qui lui est complémentaire, qui lui est lié, qui va de pair avec le premier, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est aimer Dieu et aimer son prochain. Donc, la connaissance ne doit pas nous arrêter. Juste au niveau de la connaissance, il faut que ça nous amène à aimer le prochain, aimer Dieu, aimer le prochain, et pouvoir donc nous limiter dans certaines libertés, si jamais cela peut nuire à cet aspect de communion qui doit exister avec les autres. Voilà donc pour les trois premiers versets. Lisons les versets 4 à 6 à présent. « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, car il est des êtres qui sont appelés Dieu, avec un petit, avec minuscule, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, petit Dieu, petit Seigneur. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul grand Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Clairement, le message que Paul veut passer dans ces versets 4 à 6, c'est que une idole n'est pas un Dieu. Au verset 4, il convient, Paul convient, dit « Pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. » Il convient, il est d'accord avec ceux qui confessent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que les idoles ne sont rien. Ce qu'il sous-entend là, c'est qu'il dit « Où est donc, ou alors le mal à manger ces viandes sacrifiées aux idoles qui sont vides, des idoles qui sont vides, qui ne sont rien, qui sont vaines. » Et ça, c'est confirmé aussi dans un autre texte de la Bible. Si nous allons dans le livre des psaumes, le psaume 115, on dit ceci, décrivant ces idoles, le psaume 115, le verset 4 à 6, nous dit « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes, sans rien. » Elles ont une bouche, elles ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Verset 7. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Comment donc peut-on se fier à ces idoles? Ce que Paul veut sous-entendre, c'est que les idoles ne sont rien, donc où est le mal à manger ces viandes qui sont sacrifiées à ce qui n'est rien, tout simplement. Et au verset 5, « Car s'il est des êtres qui sont appelés petits dieux, de dieux minuscules, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, Paul reconnaît également l'existence des êtres spirituels qui sont appelés dieux, avec minuscule au pluriel. » C'est vrai, là, dans la parole de Dieu, de tout temps, il a été fait allusion à des dieux. Les dieux des nations, la Bible parle des dieux des Babyloniens, la Bible parle des dieux des Assyriens, la Bible parle des dieux des Égyptiens, la Bible parle des dieux des Amoréens. On peut voir un exemple dans 2 Rois 19, versets 12 à 13. La Bible parle aussi des dieux étrangers. Quand Dieu interdisait de se tourner vers des dieux étrangers, dans Genèse chapitre, si on prend juste un exemple, dans Genèse 35, le verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Ôtez les dieux étrangers. La Bible en parle, ça veut dire qu'il y a des croyances qu'il y avait sur certains dieux étrangers. Il y a aussi un autre texte qui nous en parle, un texte de Ésaïe 26, que l'on évoque parfois quand on prend la Sainte Cène. La Bible dit, Ésaïe 26, le verset 13, il dit « Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. » Donc tout ce qui peut dominer sur nous, qui n'est pas le grand Dieu, le Dieu qui s'est manifesté, qui s'est révélé, c'est d'autres maîtres qui ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que que nous invoquons ton nom. Donc, quand on parle qu'il y avait des dieux, des petits dieux, ben, il y en avait de toutes sortes dans l'ancien temps, les dieux des nations, les dieux étrangers et d'autres maîtres. Nous venons de voir quelques références là-dedans. Et au verset 6, Paul confirme donc qu'il n'y a qu'un seul Dieu, grand Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Il réaffirme donc qu'il y a un seul Dieu, le Père, qui a toujours été, qui est le Créateur, qui était au commencement et qui n'a ni début ni fin, de qui viennent toutes choses, pour qui toutes choses ont été créées. Nous aussi, nous avons été créés pour ce grand Dieu, pour l'honorer, pour vivre en communion avec lui. Il y a un seul Dieu, le Père, mais il y a aussi un seul Seigneur, Jésus, qui doit régner dans nos vies, par qui toutes choses ont été faites. Oui, par qui toutes choses ont été faites, parce que il a été présent aussi, il a été même actif, pas seulement présent, a été actif au moment de la création. L'Épître, l'Évangile selon Jean nous en parle, au chapitre 1er, le verset 3. Le même Seigneur par qui nous sommes. Oui, parce que c'est lui qui nous a rachetés de nos vaines manières de vivre. Nous étions perdus, nous étions morts, et c'est par son sacrifice, c'est parce qu'il a accepté d'endurer sur le bois du calvaire que nous avons été ramenés à la vie. Donc il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Maintenant, si nous lisons les versets 7 à 12, on va voir ce que Paul dit. Il dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Il revient sur l'aspect de connaissance qu'il a abordé au début. Après avoir clarifié un certain nombre de choses, oui, qu'il existe des idoles, mais qui ne sont rien. Oui, qu'il existe ce qu'on appelle des petits dieux, mais qui ne sont absolument rien, qu'il y a un seul Dieu. Il revient sur la connaissance dont les gens se prévalaient. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiés aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez donc garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, ta conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra, tombera, péchera par ta connaissance le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Paul revient sur la connaissance en disant, oui, il y a des gens qui ont une certaine connaissance, un certain niveau de connaissance, mais ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de connaissance. Tous n'ont pas cette connaissance. Il y a encore au milieu de vous des faibles. Et il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Le verset 7 dit, mais il revient encore pour montrer que les idoles sont vaines. C'est vrai que les idoles sont vaines. Certains envisagent encore les idoles autrement. Certains parmi le peuple, parmi les membres de l'Église, sont encore superstitieux au sujet des idoles. Pour les faibles, ce qu'il veut dire, c'est que l'expérience de leurs anciennes croyances, ils viennent d'un monde païen, ils savent ce qu'ils faisaient de par leurs expériences anciennes. Leurs expériences les poussent donc à ne prendre aucun risque d'être sous leur influence néfaste. Et leurs expériences, encore, à tous ceux qui sont encore faibles, les fait reculer. Ils disent, non, je ne veux plus toucher à ces choses. Moi, j'ai quitté ce monde des idoles, je ne veux plus toucher. Ça les fait reculer devant tout ce qui peut être associé à leur vie passée, à leur vie païenne. Ils veulent à tout prix s'en éloigner, ils veulent à tout prix se détacher de tout ce qui touche à ces idoles. Donc, ils veulent vraiment mener une nouveauté de vie parce qu'ils se disent, c'est une mauvaise vie, c'est une ancienne vie, je ne veux plus y toucher. De par la connaissance qu'ils avaient, ils savent que les aliments, Paul le confirme que les aliments, ce n'est pas, au verset 8, les aliments, ce n'est pas ce qui va nous rapprocher de Dieu. Tout comme les aliments, ce n'est pas ça qui va nous éloigner de Dieu. Mais il est vrai que pour les faibles, ils s'imaginaient qu'en mangeant ces viandes, ils se souillaient et qu'ils s'éloignaient de Dieu. C'est des rappels que Paul est en train de montrer. Il dit que nous ne sommes pas au même niveau. Il faut tenir compte du niveau auquel les autres sont encore. Donc, Paul leur demande de prendre garde. Prenez garde. Alors, soyez conséquents. Ayant un tel éclairage, soyez conséquents. Paul les met, les chrétiens matures, il les met en garde par rapport donc à ce qui peut être considéré comme une occasion de chute pour ces faibles. On le sait qu'ils sont faibles, tenez-en compte, parce que si vous n'en tenez pas compte, ben vous allez les éloigner, vous allez les blesser, vous allez les choquer, ils risquent de quitter les bonnes voies dans lesquelles ils se sont engagés. Il fait appel à la maturité de ces chrétiens qui sont considérés comme forts, qui comprennent encore mieux les choses. Il dit, un chrétien mature doit veiller parce qu'il lui peut ne rien voir de mal par lui-même, ou pour lui-même plutôt, mais il ne doit pas oublier que cela peut scandaliser le plus faible. Donc il met vraiment les chrétiens matures en garde au verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté, vous pouvez en user, mais il ne faut pas que ça devienne une pierre d'achoppement. Il ne faut pas que ça devienne un objet de scandale. Il ne faut pas que ça devienne une occasion de chute, quelque chose qui va arrêter les faibles dans la marche qu'ils ont amorcée. Et au verset 10, donc, il dit que parfois, il va falloir éviter d'user, de se servir de notre propre liberté, si cela peut nuire à un plus faible. Si on doit les gagner à Christ, si on doit les entourer pendant leur croissance, il y a par moments où nous devons accepter de ne pas user de notre liberté, si cela peut donc les entraîner à violer leur conscience. Parce qu'il dit au verset 11, « Car le faible périra ». Il risque de périr, ça veut dire qu'il risque de tomber dans le péché, il risque de reculer, il risque de faiblir encore davantage, lui qui, pour qui Christ a versé son sang. Il est précieux donc aux yeux de Dieu et c'est important que l'on en tienne compte. Et c'est ce qu'il dit au verset 12, « En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience, vous péchez contre Christ. » C'est-à-dire quand on le fait sciemment, on pêche soi-même contre Christ. Et c'est un peu ce que nous avions abordé lorsque nous étudions, il y a déjà longtemps, la question de la foi et même de la liberté chrétienne quand on a étudié l'Épître aux Romains. Au chapitre 14, on en a beaucoup fait allusion. On disait à l'époque, dans les versets 22 et 23, que si toi tu as un niveau de foi, nous ne sommes pas tous sur le même niveau de foi, mais garde ta foi pour toi. Ne te compare pas à quelqu'un d'autre et ne pousse personne à agir contre sa conscience. Il faut l'encadrer, certes, il faut lui dire la vérité, mais il faut laisser aussi le temps aux gens d'être formés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Il faut vraiment laisser le temps aux gens de grandir. Nous-mêmes, on n'a pas grandi en un seul jour. C'est important que nous sachions que Dieu jugera donc les croyants, certainement à la lumière de la connaissance qu'ils ont reçue. Voilà donc par où Paul termine dans le verset 13. Il dit ceci en terminant le chapitre 8, dit que c'est pourquoi. Donc c'est comme une conséquence qu'il prend pour lui-même et il veut que les autres puissent tirer cette leçon. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. C'est affirmatif ce qu'il dit, mais il y a des mauvaises langues, il y a des gens qui peuvent en tirer des conclusions pour dire, Paul est devenu végétarien parce qu'il dit, je ne mangerai plus jamais de viande. Non. Il faut toujours placer le verset dans son contexte. Il dit, même si cela doit me coûter de ne plus jamais manger de viande pour ne pas scandaliser un plus faible que moi, je ne mangerai jamais de viande. Il affirme simplement qu'il a une bonne disposition et c'est ce qu'il veut encourager les chrétiens de Corinthe à avoir. Donc, une bonne disposition de se priver de sa liberté, ne pas nécessairement en profiter au maximum au risque de scandaliser ou de perdre un plus faible, un frère plus faible. Dieu nous demandera des comptes sur la façon dont notre comportement affectera les frères et les sœurs qu'il a mis autour de nous. Donc, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement ou expressément interdites dans la Bible, mais dont on peut se passer facilement pour ne pas nuire à quelqu'un pour qui Christ est mort. Et c'est ce que Paul disait dans le chapitre 6 que nous avons étudié, de la première épître, au verset 12, il dit qu'il y a des choses qui sont permises, mais qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas vitales pour la vie des enfants de Dieu. Et ça, c'est un type d'enseignement qui est peut-être difficile, que beaucoup n'aiment peut-être pas entendre parce qu'ils veulent vivre, agir, se comporter comme ils l'entendent, oubliant que nous sommes responsables, que nous sommes donc gardiens les uns des autres, que le Seigneur nous aide à tirer des leçons. Et tout ça est à savoir par moments nous priver de notre liberté pour le bien de tous, pour le bien des plus grands nombres, pour que nous gagnions les plus faibles au Seigneur. Amen.